Sur le plan de l'ancrage thématique, géographique, chronologique, ce sujet, en fait, s'insère, vient à la suite du colloque organisé en 2014 par Histoire et Société Rurale, et dans un débat à plus long sur les petites gens de la terre, et dans un débat à plus long terme qui avait eu lieu à Göttingen entre Jean-Marc Morisseau, donc ici présent, et Jean-Michel Beuler, qui travaille sur l'Alsace notamment, sur l'insertion de la petite culture dans le développement du système capitaliste appliqué aux exploitations agricoles. Alors, bon, cette thématique, je m'en inspire surtout avec un objectif, c'est-à-dire redonner la parole aux petites gens de la terre sur le temps long. Alors, pourquoi 1582? Et là, je passe aux ancrages chronologiques. Il s'agit tout simplement de donner la parole grâce aux manœuvres et aux vignerons, grâce à une source exceptionnelle, celle des minutes d'un procès en sorcellerie, qui sont parmi les seules minutes de procès en sorcellerie conservées au Parlement de Paris, et où on a l'ensemble des interrogatoires, et se déroulent sous nos yeux les heures et les jours des manœuvres, la pluriactivité, leurs activités tous les jours. C'est une société qui reprend vie sous nos yeux. Alors, ça, c'est le point de départ officiel de la thèse. À l'heure actuelle, au vu des dépouillements que j'ai pu faire, et notamment à travers la constitution d'une base généalogique, c'est surtout les règnes de Louis XIV et de Louis XV, comme le montre l'article derrière moi, que j'ai pu traiter, si on prend le recensement des personnes rentrées dans cette base. Sur le plan historiographique et géographique, quel intérêt de prendre le Berry et un micro-pays du Berry? Puisque l'historiographie, sur le plan régional, est très faible. Et le salut des historiens passe par les géographes, notamment avec les thèses de Roger Dion ou de François Guay sur la Champagne berrichonne et le Val-de-Loire, où on remonte facilement à des considérations qui portent sur le XVIIIe siècle. Et cette région, j'ai tenté de vous en présenter les caractères originaux. Ce sont 21 paroisses qui s'inscrivent dans une mosaïque juridique, d'une part. Le Sancerrois fait partie de l'élection de Bourges, qui elle-même fait partie de la généralité du même nom. Mais, pour complexifier un peu la chose, en 1696, on a deux paroisses, Coire et Thonet, qui se détachent pour rejoindre l'élection de la Charité, qui elle-même est formée aux dépens de celle de l'élection de Bourges. Bien sûr, on a des enclaves, des esclaves sur le plan seigneurial, aucun souci là-dessus, donc on n'a aucune unité du Sancerrois sur le plan administratif sous l'Ancien Régime. On a également une mosaïque paysagère. Alors, bien sûr, on pourrait raffiner en montrant les évolutions et les différences à travers le temps des grands traits de l'histoire paysagère du Sancerrois, mais enfin, on a encore trois grandes zones qui se détachent et qui sont bien identifiables aujourd'hui, à savoir au sud du Sancerrois et à l'est, dans le Val-de-Loire, un paysage de plaine, de champagne, avec de la grande culture céréalière essentiellement. Un cœur de zone au centre, sur le plan géographique des paroisses que j'étudie, formé par un vignoble, bien entendu avec des parcelles très largement morcelées. Et enfin, au nord-ouest, notamment de ma zone, un reliquat de bocage qui était bien entendu absolument pas un reliquat à l'époque que j'étudie. Sur le plan de l'habitat, on a également deux formes d'organisation. D'une part, dans la zone viticole du Sancerrois, un habitat vigneron très groupé, avec deux, trois villages par commune, paroisse, d'égale importance, et c'est tout. C'est par exemple la concentration à Ménétréol sous Sancerre. Ou encore à l'est de Crézancy, avec deux villages, celui de Régny et de Champtin, très largement visible sur la carte. En revanche, autrement, c'est la dispersion. On a une dispersion qui peut être même aller jusqu'à l'extrême, avec un exemple, celui de Sambogeux. On a, sur 21 km², 80 lieux-dits habité. Ou encore à Couargues, dont le chef-lieu de la commune est bien moins important que bien d'autres villages plus peuplés. Dans ces zones, sur toutes les marges du Sancerrois, en fait, on a une balance entre des villages souvent peuplés dans les temps anciens de journaliers, de manœuvres, et des domaines qui ont une importance économique primordiale, mais qui, bien entendu, sur le plan de l'habitat, sont beaucoup moins importants, en tout cas sur le plan du recensement. Alors, une mosaïque des paysages et du territoire, est-ce qu'on peut trouver une unité parmi les hommes ? À première vue, oui, et c'est pour ça que je parle aujourd'hui de Sancerrois. On a, et cette unité, elle se fait essentiellement par l'attraction d'une petite ville au centre, Sancerre. Alors, bien sûr, on a une attractivité économique, le rôle du marché du samedi matin, qui n'est plus à démontrer. Mais même si on prend pour mesurer également l'attractivité de Sancerre les registres paroissiaux, on voit bien qu'il y a plusieurs cercles concentriques qui se forment si on étudie les hors-saints qui viennent se marier à Sancerre, sous l'Ancien Régime. On a plusieurs cercles concentriques donc, qui forment plusieurs zones d'influence de Sancerre qui permettent de détacher un Sancerrois. Unité des hommes également, le Sancerrois a une spécificité par rapport, sur le plan démographique, par rapport au reste du Berry, qui, en fait, est déjà sous l'Ancien Régime, quand on regarde les études de Jacques du Paquier, fait partie d'une forme de diagonale du vide dès l'Ancien Régime. Or, sous l'Ancien Régime, avec des densités telles que 13 feux au kilomètre carré en 1788, pour certaines communes vigneronnes, dépasse celle du Cotentin, à 14,2 feux au kilomètre carré, c'est-à-dire celle d'un Mont-de-Plain. Et donc, ce qu'il y a de remarquable en Sancerrois et plus largement même au-delà dans le Pays Fort, c'est-à-dire aujourd'hui l'actuel nord-est du Cher, c'est une densité de population beaucoup plus importante. Sur le plan de l'impôt, également, on a une inégalité, bien sûr, qui apparaît, et on retrouve, en tout cas pour, à gauche, les années 1693-94, les différentes zones paysagères que j'ai définies précédemment, à savoir au sud de la zone et à l'est, une imposition plus importante dans les paroisses à blé, telles qu'on pourrait les nommer, au nord-ouest, dans les zones de bocage où l'élevage est plus important, une moyenne d'imposition beaucoup plus faible, notamment puisque les qualités de la terre sont moins reconnues encore aujourd'hui sur le plan des rendements. La logique en 1750, c'est-à-dire à droite, est beaucoup moins claire. On assiste seulement en fait à un effondrement de la taille payée en moyenne dans les communes vigneronnes. Alors, je vous ai dressé à grands traits et très rapidement un portrait du Sancerrois. Les manœuvres et vignerons, pourquoi s'intéresser à eux quand on étudie le Sancerrois ? Tout simplement parce qu'ils sont numériquement écrasants. En les remettant au centre de l'étude, on s'aperçoit, et notamment en étudiant les rôles de taille, on s'aperçoit qu'on a une société très homogène, où on a un certain nombre donc, de petits exploitants, vignerons et manœuvres, qui profitent de l'absence de gros laboureurs et de gros fermiers, et forment donc là une catégorie charnière avec une moyenne d'imposition bien supérieure à celle des journaliers ou des manouvriers en Île-de-France ou même en Normandie. Et c'est en cela que je parle de France médiane, c'est-à-dire que le Sancerrois est très loin des sociétés très polarisées sur le plan social des régions d'Île-de-France ou du nord de la France, mais également de l'opposition entre brassiers et métayers dans le sud. Et au cours du XVIIIe siècle, cette importance numérique du manœuvre et des vignerons s'accroît. En comparant le nombre de manœuvre et de vignerons retrouvés dans les rôles de taille entre 1693 et 1794, on voit un développement du nombre de manœuvres, et ce, aux dépens, en fait, des laboureurs. On voit donc bien là que les laboureurs du Sancerrois sont en fait de petits laboureurs, absolument pas des grands fermiers, qui tombent très rapidement dans une forme de prolétarisation au cours du XVIIIe siècle. Il y a donc bien là un triomphe numérique des manœuvres et des vignerons. Si on étudie les dénominations permettent d'éclairer en fait ce qui se cache derrière ces deux termes. Si on étudie en fait leur évolution, on voit beaucoup mieux ce qui se cache derrière qu'est-ce que veut dire manœuvre et que veut dire vigneron à travers les siècles. En relevant les nombres de mentions dans l'état civil, alors bien sûr on peut trouver des biais dans la source, puisque par exemple on a un curé qui peut, chaque curé peut par exemple pendant 30 ans dire qu'il n'y a aucun manœuvre dans ses actes d'état civil, alors qu'on les trouve dans les rôles de taille, et mettre tout le monde vigneron. Tout le monde est vigneron assuré en vôtre, 1674 et 1699. Ce n'est absolument pas vrai. Enfin, en tout cas, on peut pondérer cette expression si on regarde les rôles de taille. Mais ce qu'on voit, c'est que sous l'Ancien Régime, on a essentiellement deux termes qui s'appliquent aux couches inférieures de la société. Celui de vigneron, qui domine tout le XVIIe siècle, et celui de manœuvre qui se développe au XVIIIe et qui correspond peut-être également à une pluriactivité qui se développe également au cours du XVIIIe et peut-être correspond à une crise de la viticulture en Sancerrois au XVIIIe siècle. Ça serait à étudier avec plus de détails. Et finalement, quand on étudie également ensuite les mentions au XIXe siècle, c'est là qu'on se rend mieux compte encore de ce qui se cache derrière le terme de manœuvre. En fait, on voit que le manœuvre correspond à ce qui prendra le relais à partir notamment du Second Empire, avec les termes de journalier et de cultivateur. Le manœuvre n'est donc pas un manouvrier du bassin parisien, c'est un petit exploitant à mi-chemin entre le journalier et le petit cultivateur indépendant. C'est celui qui a ses quelques lopins de terre, semble-t-il, et qui va travailler, faire quelques journées, une fois ses labours et le travail sur ses propres terres effectués. Alors, on trouve également un développement considérable de la représentation de ces termes de manœuvre et vigneron à travers les actes notariés, et on voit bien qu'en fait, plus on progresse dans ma période d'étude, plus le biais des sources se trouve gommé. Que ce soit à travers les inventaires à prédécès, d'ailleurs, comme les contrats de mariage que je viens de vous passer. Puisque, en fait, les manœuvres et vignerons représentent au bas mot les trois quarts de la société, c'est en tout cas ce que montraient les rôles fiscaux. Et c'est ce qu'à travers, à la fin du XVIIIe siècle, on voit à travers l'étude des actes notariés. Si on s'intéresse toujours à cette figure sur le plan social et économique, est-ce qu'on est manœuvre ou est-ce qu'on le devient? Quelles sont les perspectives d'ouverture sociale du manœuvre? Alors, si j'ai mené mon étude sur 144 cas, à partir d'une base de données généalogique qui comporte 5991 individus, et parmi lesquels on trouve 230 manœuvres, 87 laboureurs et 49 vignerons. Mais sur les 230 manœuvres, je n'ai que 144 cas où j'ai plusieurs générations dont j'ai les professions. Et on voit que les manœuvres sont un véritable pôle d'attraction pour les autres professions. En fait, nombre de fils de laboureurs deviendront manœuvres, tomberont de leur statut social originel, et les vignerons sont immanquablement liés également aux manœuvres, puisque 41% des vignerons ne finissent pas, même pas vignerons, mais manœuvres. On voit donc bien que là, quand on est vigneron, on est lié au sort des manœuvres et inversement. sur le plan ces manœuvres, sont-ils enracinés? En prenant les études de consanguinité, et notamment les dispenses, on se rend compte qu'il y a un enracinement très fort des manœuvres et des vignerons localement. Trois quarts des mariages consanguins à Sury-en-Vaux et à Verdigny se déroulent sur un couple de deux communes, alors qu'on a un certain nombre de communes limitrophes qui pourraient également faire l'objet de mariages, en tout cas où les gens pourraient se rendre pour se marier. Sur le plan des bassins d'alliance, on a des bassins où on le voit très restreint, avec des noms de famille, en étudiant sur le plan généalogique, qui littéralement gouvernent certaines paroisses. Ce sont des noms à travers dont on ne pourra pas faire abstraction si l'on étudie les communes et les manœuvres sur le plan généalogique. C'est le cas notamment avec notamment les familles Crochet et Bûcher, dont on voit un certain nombre d'unions au cours de l'Ancien Régime. Et bien entendu, ces unions se poursuivent au XIXe siècle. De même, quand on dépouille à nouveau les dispenses de consanguinité, à Sury-en-Vaux, à Verdigny, on voit bien que les familles Vatan et Gressin sont surreprésentées au plan local, qu'on a une très forte consanguinité dans le monde vigneron, notamment. Si on étudie les minutes notariales, et notamment les contrats de mariage, qui permettent d'avoir des éléments économiques. On voit que, alors, on observe bien sûr une monétarisation progressive de la société au cours du XVIIIe siècle, puisqu'en fait la faiblesse des dots au XVIIe siècle et surtout le fait d'un apport matériel beaucoup plus conséquent. Au XVIIIe siècle, je n'ai quasiment jamais de clause avec des apports matériels, alors qu'au XVIIe siècle, à chaque fois, chaque époux apporte une ou deux brebis. Chacun apporte ses deux brebis au mariage, un chalit, l'autre le coffre, et ainsi de suite. Ce n'est plus le cas au XVIIIe siècle. Et sur le plan des moyennes de dot, on remarque, si on compare avec d'autres régions, notamment avec les vignerons du Sauternais, une faiblesse des dots. Au XVIIe siècle, la dot moyenne pour un vigneron à Sauternes est de 94 livres. Au XVIIe siècle, en Sancerrois, on en est encore loin. Et alors que le Sauternais voit une forte augmentation dans le montant de la dot au XVIIIe siècle, on passe à 212 livres, en Sancerrois, on plafonne au XVIIIe siècle à 100 livres, ce qui est absolument très peu. Alors, pourquoi cette faiblesse des dots, puisqu'on est quand même assez loin des dots des grands fermiers où 1000 livres, c'est le minimum, et je ne parle même pas des dentelières d'Alençon. Eh bien, c'est parce qu'on a une forme d'organisation des familles très particulière et qui explique en même temps la consanguinité. On fonctionne en Sancerrois, en communauté familiale. On n'est pas dans les familles nucléaires du bassin parisien. On se rapproche en fait du Bourbonnais et du Nivernais avec leur communauté paisible. Et on entre, en fait, le contrat de mariage ne signifie pas l'établissement d'un nouveau couple indépendant, mais en fait, d'une intégration d'un nouveau membre dans une communauté déjà établie. Et sur le plan, si on comptabilise et qu'on fait la moyenne de ces communautés familiales, c'est près de 60% des contrats de mariage qui comportent des clauses de communauté. Enfin, 60% des mariages en Sancerrois forment et intègrent des communautés familiales déjà existantes. Alors, ces communautés, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, on intègre la famille du beau-père ou de la belle-mère avec les parents et les frères et sœurs d'un des deux époux. Ce qui fait finalement des moyennes, en tout cas pour les manœuvres, de tête par communauté, finalement relativement basse, puisqu'on est à 4 têtes au XVIIIe siècle et 5 au XVIIe. Attention, mes communautés sont, chez les manœuvres et les vignerons, sont relativement faibles par rapport à celles que l'on pourra trouver chez les laboureurs. où là, le seul mariage de laboureur, d'une fille de laboureur avec un manœuvre, où le manœuvre intègre la communauté du laboureur, là, on passe tout de suite à 9 têtes. Donc, on voit tout de suite qu'il y a différents niveaux sur le plan des communautés familiales au niveau local. Et en regardant avec précision, on voit également que les manœuvres ont plus tendance à se mettre en communauté familiale que les vignerons. Tout simplement, puisque, et là, c'est une question en fait matérielle, les villages vignerons sont organisés sur le plan de l'habitat avec des maisons, tout simplement, extrêmement petites dans un environnement physique finalement relativement contraint, celui des coteaux et des vallées, où on a des villages de fond de vallée, et on a des maisons individuelles très petites, et ça se voit à travers les inventaires après décès. Et donc seulement 47% des vignerons seront en communauté familiale. Sur le plan de la fortune mobilière, ça arrive, des actifs mobiliers, on voit également une augmentation s'est attendue entre le XVIIe et XVIIIe siècle, là-dessus rien que du très classique. On est avec les vignerons et les manœuvres. Au niveau, pour le XVIIe siècle, des journaliers de Stéphanie Lachaud du Sauternay, c'est-à-dire entre 200 et 300 livres en moyenne en montant d'inventaire, et les vignerons sont entre 600 et 1000. On voit donc là que la situation en Sauternay correspond beaucoup plus à la situation des vignerons en Sancerrois au XVIIIe siècle. Et cette fortune mobilière, on voit qu'en fait, elle augmente, etc., en moyenne. Mais ce qui est remarquable, c'est la dispersion. On arrive à la fin du XVIIIe siècle avec des montants d'inventaire pour des manœuvres et des vignerons relativement hauts, qui laissent penser finalement que beaucoup de manœuvres, ou 10 manœuvres, s'approchent des laboureurs, en fait. Et que cette homogénéité sociale qu'on retrouve dans les rôles de taille, elle se retrouve également dans les inventaires après décès, et qu'on arrive à la prouver sans aucun souci. Un exemple, parmi d'autres, Nicolas Gimaud, et son inventaire après décès à la fin de la décennie 1780 au Croupion à Saint-Bouise, certes, il est manœuvre, mais il a tout de même sa charrue, qui est pourtant l'attribut phare qui permet de définir la condition d'un laboureur. Un manœuvre, qu'est-ce que c'est ? C'est un laboureur qui n'a pas de charrue, tout simplement. On voit donc que les catégories sociales sont poreuses, et que les manœuvres, que ce soit sur le plan des caractéristiques sociales, économiques ou professionnelles, sont en fait à la fois un groupe charnière et extrêmement ouvert aux autres groupes, finalement. Et ils sont tellement centraux qu'on les retrouve, ils sont en contact et en lien avec la plupart des autres professions. Ces acteurs, les manœuvres et vignerons, s'insèrent dans une structure agraire particulière, la manœuvrerie, qu'on a vu apparaître dans un article scientifique pour la première fois en 1995, grâce à un article de Jean-Pierre Rocher sur les manœuvreries en puisée, c'est-à-dire, pour faire simple, on traverse la Loire. On est à l'ouest de la Loire, en Sancerrois, la puisée, c'est la même chose, mais à l'est. Pour l'instant, mon corpus est relativement faible. Hein, j'ai seulement 69 baux de manœuvrerie de dépouillés, et comme vous pouvez le voir, essentiellement sur une étude, celle de Ménétriol, qui donc va occuper des manœuvres, qui s'occupe donc de manœuvreries au sud-est de ma zone. Ces manœuvreries en Val-de-Loire. J'ai eu une surprise en regardant les pourcentages au niveau du type de parcellaire, puisque je m'attendais en fait à ce que les manœuvreries, souligne déjà Brigitte Maillard pour les closeries de Touraine, servent d'extension à une métairie pour faire en fait une spécialisation sur l'élevage. En regardant le pourcentage parcellaire, par type de parcellaire, je vois mal les manœuvres, en tout cas à première vue, surtout quand on compare avec les closeries du Bamen de Nîmes-Antoine, faire de l'élevage. On a donc quand même des exploitations qui sont essentiellement céréalières. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore très clair, puisqu'on trouve quand même un certain nombre de baux à cheptel dans les baux à manœuvres. Intégrés au bois à manœuvrerie. assis. Sur les 69 baux de manœuvrerie retrouvés, j'en ai quand même 22 qui établissent des clauses de bail à cheptel. Avec en moyenne, on a 16 brebis, 6 agneaux, 2 vaches, éventuellement 2 veaux également. Mais on retrouve également des moutons, des tors, des taureaux, des oies, des jarres, des dindes et même des abeilles. J'en ai 3 dans une manœuvrerie et j'ai même un manœuvre apiculteur en 1670 qui, alors lui, possède 20 paniers à mouches à miel, in texto, qui donc, il y en a pour 30 livres, ce qui représente plus du tiers de son actif. Quand même. Je précise ça, si ça peut éviter de tomber dans l'oreille d'un sourd. Il convient également de voir après qui possède les manœuvreries, puisqu'en fait on se rend compte que certes c'est une assurance, le manœuvre a sa manœuvrerie, mais il n'en est pas quand même propriétaire. Et là on voit que les manœuvreries en fait servent de bien fond des laboureurs. Les laboureurs possèdent énormément de manœuvreries et surtout on a des figures qui se détachent. C'est ce qui paraît le plus frappant si on étudie qualitativement les propriétaires et les bailleurs. On a des fermiers, des laboureurs très bien établis qui sont en fait les maîtres des manœuvres. Ils louent et résilient les baux à leur convenance ils sont généralement, ces personnages, en possession de plusieurs manœuvreries. On a donc là des personnes qui... sont seulement fermiers, hein, ils ne sont pas propriétaires de la grande exploitation qu'ils occupent. En revanche, ils assurent leurs arrières avec les manœuvreries, qu'ils louent à des manœuvres. Alors, ces manœuvreries, si on essaye de voir ce que ça représente en fait pour les manœuvres sur le plan du fermage, on pourrait dire, est-ce que la durée du bail, on a souvent 6 ou 9 ans, est-ce que ces baux, cette durée influe sur la moyenne du fermage? J'ai les chiffres sous les yeux, quasiment pas. La variation du fermage est à chercher plutôt à travers différents paliers de manœuvrerie qu'on pourrait établir à partir de la surface de ces manœuvreries. Hein, on a des manœuvreries qui pour une bonne partie, ne dépassent pas les 2 hectares. On est donc là loin de l'indépendance économique et agricole. On est donc, pour ces manœuvres qui occupent ces manœuvres-là, sont donc obligés d'aller se louer dans d'autres exploitations. En revanche, au-delà de 2 hectares, on voit une envolée certes du prix du fermage, mais surtout une ouverture possible vers une indépendance économique. C'est vers la pluriactivité qu'il faut se tourner. En 1677, au creux de la vallée sèche de Chavignol, Antoine Thomas et Marie Boulet, vivant de leur état, bon, ils ont leurs 5 brebis, 3 agneaux et la vieille chèvre, toujours pour dire qu'il y a toujours un peu de bétail quand même chez les manœuvres, ont ensemencé 7 bosselets de froment, 5 de marsèche, soit 1 hectare et 16 arts. Absolument pas assez pour vivre et travailler toute l'année sur cette exploitation. La clé de leur indépendance en fait va passer par leur 6 ommets de vigne, soit 22 arts et 68 centiares en calcul moderne, et c'est alors en fait 1 mois et demi à 2 mois de travail qui se rajoute pour eux. L'horizon donc de l'indépendance financière s'ouvre. On voit que les manœuvres également pratiquent la pluriactivité de manière assez importante, puisque alors certes on voit qu'il y a toute la gamme des différentes professions que peuvent occuper à manœuvre dans l'état civil, mais en prenant les inventaires après décès, on voit que les activités de tisserand sont absolument omniprésentes. Chaque manœuvre aura du chanvre, chaque manœuvre aura son rouet à filer. Avec justement cette pluriactivité, notamment au niveau des types de cultures, c'est là que passe éventuellement la survie économique du manœuvre. En revanche, mobilité professionnelle ne signifie pas non plus forcément survie économique. Le cas d'Étienne Laloche paraît assez parlant. On voit une très forte instabilité géographique, témoin d'une instabilité économique qui se couple à une instabilité professionnelle. Alors, Tout ce que je vous ai présenté là sont, j'attends vos questions avec impatience, puisque c'est très partiel, ça mérite d'autres, un approfondissement, surtout des dépouillements, et puisque là, en fait, je suis encore dans la phase de collecte des documents, ce qui est assez considérable, mes documents notariés, c'est environ 30 000 photos pour la fin du XVIIe siècle. Ces 30 000 documents, il faut les classer, il faut les dépouiller. C'est en cours, ce qui explique l'aspect un peu brouillon de ma présentation, puisque mes résultats sont essentiellement partiaux et ne demandent qu'à être développés à travers des études sur la propriété, sur l'influence des manœuvres sur le paysage, sur la vie matérielle. Je n'ai pas parlé des indices de vie de Micheline Bolland, qui peuvent en intéresser certains dans cette salle. Je n'ai pas également non plus parlé des relations sociales qu'on pourrait appréhender à travers d'autres sources à numériser, à travers les séries judiciaires ou les procès en sursaut. Je vous remercie pour votre attention. Attends avec impatience vos questions.